Bonjour Isabelle.
Bonjour Marianne.
Bonjour Audrey.
Bonjour Marianne.
J'ai envie de commencer par la lecture d'un petit extrait de votre livre qui, je trouve, met bien la table parce qu'il exprime à qui, je pense, vous aviez envie de vous adresser et un petit peu le contenu que vous aviez envie de véhiculer. Pour moi, ça m'a fait rigoler. C'est là que j'ai saisi, je pense, le message. Ça va comme suit. « Qu'il n'a jamais caché dans les placards, à moins de 5 minutes de l'arrivée des beaux-parents, toutes les affaires qui traînaient pour faire croire, sourire aux lèvres et à peine essouffler, que l'organisation, c'est mon rayon. Un mari, 3 gamins, un boulot, un planning multi-entrée, un peu de sport, une séance d'épilation régulièrement, c'est cool, j'assure. » Non, je craque, en fait. La pression, est-ce que ça vient justement de ce qu'on veut cacher et de ce qu'on veut taire?
Oui, on pourrait le résumer comme ça. La pression, c'est vraiment ce fardeau qu'on se met sur les épaules de vouloir contenter tout le monde et de vouloir ressembler à ce qu'on croit qu'on attend de nous, de vouloir être parfait, réussir, alors qu'on ne l'est pas, qu'on est juste des êtres humains. Et donc, on se fatigue et on fait beaucoup d'efforts pour parfois être souvent quelqu'un d'autre qu'on est nous-mêmes, finalement, avec nos défauts, nos imperfections, tels qu'on est nous. Mmh. Et on se met beaucoup de pression à vouloir être trop, trop parfait.
Est-ce qu'on peut apparenter la pression, pour que les gens qui nous écoutent à la maison comprennent vraiment de quoi on parle, au stress? Est-ce que c'est semblable?
Alors, en fait, quand on dit « je suis stressée », la pression, elle vient de partout. Elle vient de l'extérieur, elle vient du travail, elle vient de la famille, vous l'avez lu, là. C'est la pression aussi qu'on se met nous-mêmes. La pression, c'est ce que vient de dire Audrey, c'est l'envie d'être parfait, de vouloir coller à un modèle. Le stress, c'est le syndrome d'adaptation à ça. Donc, c'est ce qu'on va ressentir qui va être une des premières étapes de ce qu'on peut ressentir quand on dit « je suis stressée ». Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Vraiment, la pression, c'est ce qui vient de l'extérieur ou ce que je me mets moi-même ou ce que je mets aux autres, d'une envie que tout soit comme je le souhaite ou comme les autres souhaitent que je sois.
Mm-hmm. Donc, si ça vient de nous, on est nos pires ennemis, à quelque part.
Oui, en tout cas, on n'est pas souvent toujours nos amis. C'est ouais. plutôt dans ce sens-là, parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on ne se fait pas du bien et qu'on est capable d'accepter des choses qui sont inacceptables, de ne pas prendre soin de soi pour ne pas passer pour l'égoïste de service. Si je laisse mes enfants, mon conjoint pendant 2 heures pour aller faire un massage alors qu'il y a peut-être les courses à faire, on ne va pas s'autoriser ça pour ne pas passer pour l'égoïste de service qui ne pense qu'à elle ou qu'à lui. Et on va toujours être dans le devoir faire, et parce que ça vient de notre éducation aussi. On a tous eu un petit peu cette éducation-là quand même de le devoir avant le plaisir, ça se fait, la morale, ça se fait pas et tout ça. Et finalement, quand on devient adulte, on reproduit un peu ces schémas-là. C'est normal de les reproduire. Après, c'est bien de prendre conscience que ça n'est pas forcément bon pour nous et de s'en libérer.
Mais, et de là, c'est très, très intéressant parce qu'on a l'impression qu'on rend service aux autres, qu'on en fait beaucoup et que c'est bien, mais à un moment donné, ça a des conséquences, cette pression-là.
Oui, parce que c'est beaucoup trop. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, on traite beaucoup mieux les autres qu'on ne se traite soi-même. Donc, on n'apprend pas, tout petit, à prendre soin de soi, comme Audrey vient de le dire. Et donc, on en fait trop. Au nom de quoi ? Finalement, au nom d'être accepté, de se dire j'ai absolument besoin qu'on m'aime, si je refuse de prendre le dossier que le collègue vient de me donner, je vais passer pour celle qui n'a pas du tout l'esprit d'équipe. Donc je vais dire oui, alors que mon envie, ça serait de dire non parce que je sais que j'ai déjà trop de travail. Mm-hmm. Ou bien je vais accepter que la copine me laisse ses enfants en garde alors que j'en ai déjà 3 à la maison et que je suis épuisée. Mais pour être vraiment sympathique, je vais dire oui là où je devrais lui dire... Je l'aurais fait avec plaisir, mais vraiment, je ne peux pas aujourd'hui. Je suis trop fatiguée. Mmh. Et on ne le fait pas pour soi, alors qu'on l'accepte. On prendrait soin des autres beaucoup mieux que de soi-même.
Ce que vous dites, Isabelle, ça me fait penser à ce passage où vous racontez ce qui engendre la pression. Dont, et ça j'étais très étonnée, et pourtant ça fait plein de sens, le jugement. Le jugement qu'on peut avoir envers les autres, envers soi. Il y a cet exemple, on entre dans le bureau d'un ou d'une collègue, elle joue, je ne sais trop, à un jeu sur le web, on se dit « ah, mais elle est un peu paresseuse, elle ne travaille pas », mais au fond, on la juge en faisant ça. Peut-être qu'elle est juste fatiguée, elle a besoin d'une petite pause.
Oui, elle vient peut-être de travailler pendant 2 heures sans s'arrêter et elle a besoin de sa pause où elle joue sur le web, effectivement. Mais on va être là à se comparer et se dire, mais si je juge les autres, alors certainement ils vont me juger aussi et je préfère qu'ils me jugent de manière très positive. Donc je vais essayer de paraître la plus excellente possible et la meilleure employée même.
Et tout ça, ça a des conséquences sur notre santé?
Oui. Oui, ça a des conséquences. Ça va des rhumes à répétition chroniques, aux douleurs de dos, mais ça peut aller bien, bien plus loin puisque ça va jusqu'aux troubles du sommeil, troubles de l'appétit, troubles sexuels, jusqu'à la dépression, ce qu'on appelle le burn-out aussi, et parfois même jusqu'au suicide puisque... Quand trop c'est trop, parfois la seule échappatoire pour certaines personnes, c'est de se dire je veux plus me réveiller demain parce que c'est trop lourd à porter, tout est trop lourd à porter, le fardeau est trop lourd. Alors bien évidemment, ce sont des cas extrêmes. Heureusement, il y en a pas autant que ça, mais tous les maux qui viennent avant, les troubles du sommeil, on voit beaucoup de gens qui dorment de plus en plus mal. On dit le mal de dos, c'est le mal du siècle. Il y a plein de symptômes comme ça auxquels on ne prête pas attention, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas. Souvent, on arrive au burn-out ou à la pression et on se dit, à la dépression, et on se dit, ça m'est tombé dessus, je ne m'en suis pas aperçue.
Quand il y avait plein de signaux.
Alors qu'il y avait plein de signaux déjà, mais on n'a pas été éduqué, comme le disait Isabelle tout à l'heure, on n'a pas été éduqué à écouter son corps, à prendre soin de soi. Et si j'ai mal au dos, c'est peut-être, on va se dire, oui, non, mais c'est parce que j'ai porté des choses trop lourdes. Quand je suis malade plusieurs fois de suite, on se dit, oh, c'est pas de chance, il y a plein de virus en ce moment. Non, sauf que c'est peut-être parce que je suis déjà épuisée et que mon organisme n'arrive pas à bien se défendre. Le système immunitaire est en berne et il n'arrive plus à se défendre parce que je suis épuisée, parce que j'ai trop de pression et que j'en fais trop.
Est-ce que la pression peut être positive? Je pense par exemple à se dire je veux vraiment performer au travail, je veux être la meilleure et justement ça donne de bons résultats, justement on performe et puis le patron est content, les collègues également. Est-ce que ça peut avoir un bon côté?
Alors on parle de pression positive effectivement, nous on l'a vécu, on le dit souvent, on a créé une société qui s'appelle la Fabrique à Bonheur et avec beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, on a vraiment jusque tard le soir, on répondait aux mails, on mettait tout en œuvre et c'était très, très, très jubilatoire, vraiment avec une énergie, une excitation géniale. Quoi qu'il en soit, la pression, au bout du compte, ça a le même résultat, qu'elle soit positive ou négative. On est épuisé, on a du mal à dormir, on a mal au dos et à un moment, on n'en peut plus. Donc, on peut voir que c'est positif et se dire « je vais mettre cette pression-là ». Le résultat sera le même. À un moment, il faut quand même prendre soin de soi. Il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Donc, nous, on a levé le pied un petit peu.
Oui, Audrey. Oui. Et c'est là que ça devient intéressant de faire la distinction entre la pression et le stress. Avoir du stress positif, c'est moteur et c'est ça qui va nous pousser à faire des choses, à entreprendre. Il va y avoir cette excitation. Mais on dit que c'est du stress positif parce que là, on s'adapte bien à ce qui nous est demandé de faire ou à ce qu'on s'impose. Quand on bascule dans la pression, c'est qu'on n'arrive plus. C'est que la pression, OK, pendant un moment, c'est du stress positif et c'est jubilatoire, comme le disait Isabelle. Mais l'accumulation d'aller au-delà de ses limites physiques et cognitives et psychologiques fait qu'au bout d'un moment, on est épuisé comme tout le monde.
Oui. Là, je me mets à la place des gens qui nous écoutent à la maison et qui se disent « c'est bien beau tout ça, mais en 2015, dans notre société où tout va très, très vite, où les exigences sont de plus en plus grandes, on fait comment? » La bonne nouvelle, c'est, comme je le disais tout à l'heure, votre livre est plutôt concret et vous proposez 5 étapes pour se libérer de la pression. La première, par exemple, s'affirmer sans devenir un tyran.
Oui, s'affirmer sans devenir un tyran, on a remarqué que souvent nos patients, on leur dit, mais dites que ça suffit, que mettez des limites. Ah oui, mais je ne peux pas, je vais passer pour qui, etc. Et puis finalement, ils ne disent rien. Et il y a un moment, ils arrivent et ils nous racontent, ah ben ça y est là, j'ai pété une coche, voilà. Et c'est parti trop loin, ils ont fait des dégâts, c'est un vrai tsunami. Et on leur dit toujours, on peut s'affirmer beaucoup plus tranquillement, on peut poser la limite et dire voilà ce qui est bon pour moi, voilà où ça s'arrête, voilà ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas, plus tranquillement, sans avoir tout d'un coup à partir dans des tours et puis du coup...
Et là, j'ai l'impression que vous réprimez un fou rire, on vient de parler de pétage de coche, parce que dans votre livre, vous partez de vrais témoignages de vos patients et de votre vie également.
Oui, alors tous
On a essayé de déguiser. Hein.
Oui, oui. tous les témoignages sont vrais et les solutions qu'on propose, qui ne sont pas des solutions miracles, mais ce qu'on a proposé en tout cas à nos patients, on l'a écrit dans ce livre-là et ça a marché pour eux. Et on s'est dit, si ça marche pour un certain nombre de gens qu'on accompagne, ça devrait marcher un petit peu pour tout le monde. Et on a déguisé aussi, donc on a changé tous les prénoms, bien évidemment, mais on a aussi déguisé, c'est nos propres expériences, puisqu'on a un burn-out chacune à notre compteur quand même. Dans une autre vie, où on était dans une vie où on était sous pression permanente avec ce besoin de réussite, ce besoin d'être la mère parfaite, de gérer deux jobs, les maris, les enfants, toutes ces choses-là, de rendre service, d'être les gentilles copines de service. Et à un moment donné, on a vu nos limites. Et c'est ça qui nous a fait prendre conscience qu'on pouvait faire autrement. Et c'est long. Et on a voulu écrire ce livre-là justement pour aussi dire aux gens qu'on n'est pas obligé d'en arriver à des maladies extrêmes et à du burn-out et de la dépression pour changer, que c'est pas mal peut-être aussi de mettre en place de bonnes habitudes pour éviter d'en arriver là. Puisque tous les gens qu'on rencontre, en revanche, qui sont passés par le burn-out ou par des maladies très graves liées à trop de stress et trop de pression, ce qui est sûr, c'est qu'après, il dit « je ne referai plus jamais comme avant ». Il a fallu que j'aie un cancer, par exemple, pour comprendre que je pouvais faire du slow life aussi et que la Terre n'arrêtait pas de tourner, vraiment, que je pouvais profiter plus de ma famille, que même si je gagne un petit peu moins à la fin de l'année, je peux quand même très bien vivre ma vie aussi. Mais ce qui est dommage, c'est que parfois, il faut attendre une catastrophe pour prendre conscience de tout ça.
Et bien sûr, on ne le souhaite pas, ça.
Non.
Bon, alors continuons avec ces étapes-là, parce que c'est intéressant. Accepter d'être imparfait sans trop faire dur, quand même.
Oui, accepter d'être imparfait, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte avec nos patients que de plus en plus jeunes, la demande de perfection, de production efficace, zéro droit à l'erreur, etc., devenait de plus en plus important, et même avec des enfants très petits qui, en première année, devaient déjà savoir lire très très vite, etc. Et on s'est dit, mais c'est complètement dingue parce qu'on a un degré d'exigence du zéro faute pour tout qui devient envahissant. Et le risque, c'est quoi avec les patients qu'on voit en disant, par exemple, cet exemple dans le livre de cette femme qui veut absolument faire des dîners parfait pour recevoir ses amis et qui n'en profite absolument pas, le risque qu'elle leur propose de manger des spaghettis bolognaise qui lui prennent 10 minutes à préparer, ça serait quoi? Que ses amis ne l'aiment plus? S'ils ne l'aimaient plus, ce ne seraient pas des vrais amis. Mm-hmm. Donc, accepter de baisser son exigence en termes de perfection, ça n'a pas de risque. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, je ne baisse pas mon exigence quand je suis médecin, par exemple, mais dans la vie de tous les jours, la quête de la perfection, elle est vraiment très envahissante, très bloquante. Et nous, on dit toujours que dans le mot parfait, ce qu'on préfère vraiment, c'est la deuxième syllabe, c'est que ça soit fait en tout cas, parce qu'on pourra l'améliorer. Mais on peut rester comme ça bloqué à envisager que les choses soient parfaites et ne rien mettre en œuvre, alors que quand on essaye, qu'on s'ajuste et qu'on fait des erreurs, ce n'est pas très grave. Au moins, on a la satisfaction d'avoir réussi à faire quelque chose.
Oui, et cet exemple de la dame qui devait se réajuster à recevoir ses amis, je fais le lien avec penser et organiser son travail autrement. Bon, dans ce cas-là, c'est pas le travail, c'est recevoir ses amis. Mais si je ne me trompe pas, vous lui aviez proposé trois options. Il y avait les spaghettis, il y avait l'assiette de fromage.
Le plateau de fromage.
Il y avait, et elle devait choisir. Donc ça, c'est bien aussi de dire, j'ai des options. Et puis après, je tente quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, j'essaierai autre chose. Et finalement, le résultat, c'est que ses copains lui disent, c'est chouette, on a bien mangé, mais en plus, t'étais avec nous.
C'est exactement ça, c'est de montrer à la personne quel bénéfice elle va tirer de baisser un peu son niveau d'exigence, mais de lui laisser plusieurs alternatives. Nous sommes toutes les deux, on est toutes les deux hypnothérapeutes, on est formées en hypnose, et en hypnose, il y a une technique qu'on propose qui est de demander à l'inconscient de trouver mille et une stratégies et d'en sélectionner 4, 5, 6 qui soient efficaces, réalisables et respectueuse. Il ne s'agit pas de choisir une nouvelle option qui ne serait pas respectueuse. Je ne vais pas arrêter de me manger les ongles, par exemple, si c'est pour me jeter sur la nourriture, ou je ne vais pas arrêter de fumer si c'est pour commencer à me ronger les ongles. Donc, on propose des alternatives avec un degré d'exigence un peu plus bas, pas trop dur non plus, sans faire dur complètement. Il ne s'agit pas de rester affalé dans le canapé toute la journée à rien faire, pas du tout, mais de baisser un peu le niveau d'exigence pour voir tous les bénéfices que je veux en tirer. Moins de fatigue, si on est au travail, plus d'efficacité, puisqu'un cerveau dont on prend soin, à qui on permet de faire des pauses, par exemple, va beaucoup mieux réfléchir. Donc, on va être plus productif et moins fatigué.
Oui. Le temps file, donc je dis aux auditeurs peut-être les deux autres étapes rapidement. Être authentique et laisser son empreinte, fabriquer ses petits bonheurs. Et il y a une panoplie d'autres trucs également dans votre livre. J'ai dit enfin stop à la pression. C'est publié chez Édito. Et j'aimerais nous laisser sur une phrase de votre livre que j'ai beaucoup aimée et à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Le meilleur moyen d'apprendre à aimer, c'est de changer le M en D et de commencer par aider. C'est vraiment magnifique. Audrey Acoun, thérapeute cognitivo-comportementaliste, et Isabelle Payot, psychologue clinicienne du travail et des apprentissages. Vous êtes thérapeute familiale, hypnothérapeute et fabricante de bonheur également. www.lafabriqueabonheur.com. Merci beaucoup.
Merci à vous. Marianne.